point à voir avant de parler de la mort expiatoire elle-même, c'est l'efficacité de l'expiation. L'expiation, en effet, a sur l'homme un certain nombre de résultats. Le premier de ces effets, c'est le pardon des péchés. C'est parce qu'il y a expiation que Dieu peut pardonner le péché de l'homme en étant parfaitement juste dans son pardon, en réconciliant parfaitement son amour et sa sainteté. Et la Bible nous dit que l'homme qui confesse son péché ne viendra pas devant Dieu en jugement. Au contraire, la croix est une condamnation du péché dans sa vie. Celui qui a reçu le pardon de ses péchés ne péchera plus ou s'efforcera de ne plus pécher, en tout cas, comme dit l'apôtre Paul, parce qu'il a réalisé l'horreur du péché, le prix extraordinaire qu'il a fallu que soit payé pour que son péché soit expié, et par conséquent, désormais, il ne peut plus prendre le péché à la légère. Ce faisant, il y a un autre effet qui découle de ce premier effet. C'est une crucifixion journalière des impulsions pécheresses. Romains 5, verset 11, ou encore ce texte où Jésus dit « Si quelqu'un veut le suivre, il faut qu'il prenne sa croix tous les jours et vienne après lui. » C'est-à-dire que tous les jours, la croix, en quelque sorte, exerce son œuvre purificatrice, à la fois en condamnant le péché, lorsque la tentation vient dans la vie de l'enfant de Dieu, la croix est là pour rappeler que le Seigneur a condamné le péché par la croix, et en même temps, eh bien, pardonner le péché par la croix. Deuxième conséquence de l'expiation, la délivrance de la mort. Il y a trois types de morts dont la croix nous délivre. La première, c'est la mort spirituelle. Cette mort dont parle l'apôtre Paul quand il dit que, à Timothée, on peut être mort quoique vivant. La mort, c'est une séparation. L'homme pécheur est séparé de Dieu par le fait même du péché. Et par conséquent, il est plongé dans la mort. Son esprit est plongé dans la mort. C'est ce qui s'est produit lorsque Adam et Ève ont péché. Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et ce jour-là, en effet, ils sont morts. Pas physiquement, mais spirituellement, il y a eu une séparation avec Dieu qui a été opérée. Et lorsque nous nous repentons de nos péchés, cette séparation est ôtée. Et l'homme, l'esprit de l'homme, qui était séparé de Dieu, en sorte qu'il était incapable d'avoir la moindre communion et la moindre communication avec Dieu, retrouve soudain cette possibilité. La croix rétablit la communion entre l'homme et Dieu. Donc, elle anéantit la mort spirituelle. Deuxièmement, la croix nous délivre de la mort physique. Dans ce sens, que d'abord, la mort physique n'est plus, comme dit la Bible, le roi des épouvantements. Mais Paul déclare que pour lui, mourir, c'est aller avec le Seigneur, c'est de loin le meilleur. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces choses quand nous ferons de l'eschatologie, je ne développe pas. Mais également, la croix nous sépare, nous délivre de la mort physique par la résurrection. Par l'assurance de la résurrection. Car le Seigneur est mort et il est ressuscité. Et ceux qui meurent en lui ressusciteront aussi en lui. Par conséquent, il y a destruction de la mort par la croix. Et enfin, eh bien, il y a délivrance de la seconde mort, ce que l'Apocalypse appelle ainsi, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu de l'homme pécheur. Ça veut dire que si le péché n'est pas expié, s'il n'est pas ôté dans cette vie, eh bien, il entraînera l'homme, après la résurrection, dans la séparation éternelle d'avec Dieu, que la Bible appelle la seconde mort. Mais celui qui reçoit le salut échappe à cette seconde mort. Jésus dit, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que Jésus a souffert pour nous toutes ces choses. Jésus a souffert la mort dans son esprit, il a été séparé d'avec Dieu à cause du péché, ce qui l'a amené à crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis il a connu la mort physique, la seconde mort bien sûr il ne l'a pas connue, c'est évident. Ce qui fait que par la croix, nous avons la vie éternelle, le salut, ou ce qu'on appelait dans la tradition juive « Aolam Abba », le monde qui vient. Bon, le monde qui vient, c'était une notion juive, et dans le Nouveau Testament, on a traduit ça en grec. Les évangélistes ont traduit ça en grec par la vie éternelle, mais c'est la même idée, la même pensée. Troisièmement, l'expiation du péché par la croix nous donne la possibilité de vivre sur le péché une vie de victoire. Ça, c'était aussi une réalité que les sacrifices de l'ancienne alliance étaient incapables de réaliser. La croix nous donne la victoire sur le péché dans notre propre vie déjà ici présente. D'abord parce qu'elle nous conduit dans la vraie repentance, c'est-à-dire dans le regret profond d'avoir offensé Dieu, et le désir de nous séparer du péché. Or, ce désir de nous séparer du péché n'est pas quelque chose qui est naturel dans le cœur de l'homme. L'homme naturel ne désire pas se séparer de son péché. Car sa volonté, elle aussi, est touchée par le péché. Et cette volonté se trouve dans l'incapacité de se tourner vers ce désir-là. Le péché a obscurci l'esprit, il a séduit le cœur, et l'homme par lui-même est incapable de se repentir. Et précisément, Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé ne l'attire. » Et Jésus dit cela en relation avec la croix. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui, soudain, montre à l'homme la nature, la gravité, la profondeur du péché et inspire dans son cœur le désir de se séparer du péché. Cette réalité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous montre la croix, qui montre l'œuvre de la croix et qui alors inspire à l'homme ce désir de se séparer du péché, désir auquel il peut résister, mais qui n'en est pas moins là. Et puis, la croix nous permet de vivre aussi une victoire sur le péché dans notre vie quotidienne, dans l'œuvre de sanctification, car si la justification est l'œuvre de la croix, la sanctification, elle aussi, est l'œuvre de la croix. Mais ça, si vous voulez, nous n'anticipons pas, nous aurons un chapitre spécial sur la sanctification. Nous allons en rester là pour ce soir, sur ce point-là. Donc, il est temps de conclure sur la mort expiatoire. Le fait de la mort expiatoire de Jésus est mentionné 175 fois dans le Nouveau Testament. C'est dire que nous avons là affaire à une doctrine centrale, C'est pourquoi ces théologiens réformés, modernistes, qui disent qu'ils refusent la notion d'expiation par la croix, eh bien, je me demande ce qu'ils font encore là. Il ferait mieux de retourner à la terre plutôt que de continuer à corrompre le peuple de Dieu, ou bien de s'occuper de politique, chose pour laquelle ils sont certainement beaucoup plus doués que pour enseigner le peuple de Dieu. Nous voyons en fait que l'incarnation avait pour but la mort. La mort était le but suprême de la vie de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour mourir en rançon, pour un grand nombre. Cette mort avait été annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament, et Pierre nous dit, 1 Pierre 1, verset 12, que le mystère de cette mort du Messie était l'objet des investigations prophétiques et que même les anges de Dieu désiraient plonger leur regard dans ce mystère. Voir aussi Apocalypse 5, verset 8 à 12. Paul rappelle qu'il s'agit bien d'une des vérités fondamentales de l'Écriture, 1 Corinthiens 2, verset 2, 1 Corinthiens 15, il nous dit « Je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Voilà. Tout est dit, tout est là. Le résumé de la doctrine chrétienne tient dans cette phrase « Christ est mort pour nos péchés ». Il est mort, nous dit-il, pour nous racheter de la malédiction que la parole de Dieu, la Torah, jetait sur l'homme qui violerait la loi de Dieu. Jésus lui-même s'est placé sous cette malédiction. Il a pris sur lui cette malédiction. Et comme nous disions il y a un instant, sa mort comble le gouffre que le péché avait creusé entre Dieu et le pécheur. Et c'est pourquoi Jésus est celui qui domine sur les vivants et sur les morts. Par sa mort, il est aussi devenu le chef de l'Église, parce qu'il s'est donné pour elle. Éphésiens 6, Éphésiens 5, verset 24. Mais s'il est vrai que le Seigneur est mort pour l'Église, s'il est vrai aussi, Apocalypse 5, verset 9, qu'il est mort pour toutes les nations, pour le monde entier, il est aussi mort personnellement pour chaque homme, pour chacun de ceux qui croient en lui. Et il est parfaitement clair que l'efficacité de sa mort dépend de la réponse individuelle de chaque homme. Le Seigneur ne sauve pas les hommes malgré eux. Et s'il est vrai qu'il est mort pour les péchés du monde entier, ceci est potentiellement vrai, mais pour que cela devienne effectif, il faut que l'individu reçoive personnellement ce salut pour lui-même. Bon, des textes très nombreux, Jean 5, versets 28 à 29, Daniel 12, verset 1 également, Ésaïe 53, verset 10, où il apparaît comme le germe d'une humanité nouvelle, Éphésiens 2, verset 14 et 16, nous dit que précisément parce qu'il est, par sa mort, le principe de cette humanité nouvelle, il anéantit la différence entre juifs et non-juifs. Car jusqu'alors, seuls les juifs, par les sacrifices de l'ancienne alliance, avaient accès à Dieu. Et maintenant, par la mort de Jésus, tout homme, juif ou non, a le même privilège, a la même possibilité de s'approcher de Dieu par Jésus. Et ça, c'est la grande révolution qu'introduit précisément la mort de Jésus. Ce qui fait que tout homme qui croit, quel qu'il soit, se trouve purifié de tout péché. Il n'y a plus de péché sur eux, même s'il y a encore du péché en eux. Car, bien que nous ayons la force de vaincre le péché, nous ne sommes pas encore totalement libérés du péché. Car pour être absolument vainqueur du péché, totalement, dans la perfection, il faudrait deux choses. Premièrement, qu'en toutes circonstances, nous ayons la toute connaissance de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui impliquerait l'omniscience de Dieu. Notre connaissance étant limitée, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de faire. Il y a des situations où c'est très clair, il y en a où ça l'est moins. Deuxièmement, il faudrait que même si nous ayons cette connaissance totale et parfaite de tout ce qui est juste et tout ce qui est bien, nous ayons toujours la force de choisir le bien et de délaisser le mal. Et cela non plus, nous n'avons pas. Il y a des situations où, connaissant parfaitement ce qui est juste, bien qu'enfants de Dieu, nous choisissons néanmoins ce que nous savons ne pas être bien. Et il faut alors à nouveau que l'œuvre de la croix vienne en nous pour nous purifier et pour nous sanctifier. Bon, des textes, Hébreux 9, verset 23, Romains 3, verset 24, Romains 5, verset 9, Matthieu 26, verset 28, etc. Et là, nous voyons justement la différence qu'il y a entre le pardon et la justification. Le pardon est quelque chose de négatif, il enlève le péché. La justification, c'est quelque chose de positif, qui nous place dans une situation où nous pouvons maintenant accomplir ce qui est juste. Et la croix ne cesse de nous justifier. Ça veut dire que même si nous avons fauté, dans la mesure où nous repentons, nous sommes replacés dans une situation où, à nouveau, nous pouvons accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Mais si la croix nous réconcilie avec Dieu, comble le mur de séparation qui nous séparait de Dieu, alors elle provoque une autre séparation, séparation avec le monde. Nous sommes réconciliés avec Dieu, mais séparés d'avec le monde. Parce que, par la croix, nous sommes rendus parfaits pour toujours. Parfaits non pas dans le sens que nous ne pouvons plus pécher, nous péchons encore, mais aux yeux de Dieu, l'œuvre de sa grâce est déjà accomplie potentiellement. Et sa mort nous purifie notre conscience des œuvres mortes. Car sa mort est la défaite du prince des ténèbres, et la chute de ce dernier est certaine, par conséquent le triomphe sur le péché, qui reste malgré tout encore en nous, est aussi certaine. Il a triomphé des puissances, il a triomphé des autorités, il a racheté l'univers tout entier, et au dernier jour, il rassemblera toutes choses en lui. Pas seulement sur la terre nouvelle, mais également dans les lieux célestes. Romains 8, verset 21. C'est aussi une idée qu'on trouve dans la tradition juive. La tradition juive emploie une expression « révélé Mashiach » qui signifie littéralement les souffrances du Messie. Les souffrances du Messie viennent de cette idée que le Messie ne régnera pas, ne pourra pas entrer dans son règne, sans qu'auparavant il y ait eu de grands troubles, des troubles sur la terre, des temps de jugement, mais aussi dans certains milieux, c'est le Messie lui-même qui doit souffrir. Et Jésus, bien sûr, est entré dans cette vision-là, qui existait déjà de son temps. Et vous vous souvenez comment dans Luc 22, aux deux disciples qui s'en allaient vers Emmaüs, il leur dit, hommes sans intelligence, « Ne fallait-il pas que le Messie souffre avant qu'il n'entre dans sa gloire ?» Schéma classique de l'apocalyptique juive, n'est-ce pas? Par exemple, un Targoum du 1er siècle, c'est-à-dire une traduction araméenne, commente le psaume 22, verset 17, « Ils ont percé mes mains et mes pieds pour l'appliquer au Messie. » Et l'on fait le rapprochement avec Zacharie 12, verset 10, c'est le cas notamment du grand commentateur du 12e siècle, Rashi, qui dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » C'est aussi pour cela qu'il est dit « Ils verront celui qu'ils ont percé. » D'où le nom du Messie, le transpercé. Et Rashi continue, il fait l'assimilation avec le texte du protévangile, Genèse 3, verset 16. « Je mettrai, dit le Seigneur au serpent, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Tu lui perceras le talon, c'est l'hébreu littéralement. Et c'est pourquoi, dit Rashi, parce que le Messie doit être percé pour nos péchés, il porte un autre nom dans Jérémie, le Messie, notre justice. Il devient notre justice. Et Rashi continue, c'est pourquoi. Moïse nous a donné 613 commandements. David les a réduits à 10, Michée à 3 et Habacuc à 1, le juste vivra par la foi. Vous savez que c'est sur ce verset qu'est construit tout entier l'Épître aux Romains. Maintenant, le Messie est aussi assimilé à un autre être céleste qui porte dans la tradition juive le nom de Métatron. Métatron, c'est celui qui est assis à la droite de Dieu dans le psaume 110. Celui auquel le Seigneur s'adresse quand il dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Métatron, qu'on appelle encore l'ange de la face parce qu'il voit la face de Dieu, il est assis à la droite de Dieu pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour les péchés d'Israël. Confère, Épître aux Hébreux, le souverain sacrificateur de notre salut, qui, son œuvre expiatoire achevée, est remontée dans la gloire, et il intercède maintenant pour les siens. Tous les matins, le Juif pieux prie. Seigneur, aie compassion de nous. À cause du souvenir de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à cause du souvenir du Messie, ton serviteur, notre justice. Bon, ici, on se confie dans l'œuvre expiatoire du Messie pour être pardonné de ses péchés. Voyez-vous, c'est assez extraordinaire, cette prière-là qui est faite tous les matins. Autre commentaire, le psaume 68. Et le psaume et Ésaïe 53, où il nous est dit, vous savez, c'est le psaume qui est cité quand Jésus est sur la croix par l'Évangile, il m'abreuve de vinaigre. Hein. Et là, on fait un rapprochement avec le livre de Ruth. Là où Boaz dit à Ruth, approche-toi des moissonneurs, et trempe ton morceau de pain dans le vinaigre. Or, Rashi dit ceci, le vinaigre, ce sont les souffrances du Messie. Pourquoi Ruth est-elle invitée à tremper son pain dans le vinaigre? Parce que Ruth est donc l'image des nations non-juives. Et jusqu'à sa manifestation à Israël, le Messie est parmi les nations non-juives et il souffre. Il est abreuvé de vinaigre. C'est pourquoi Ésaïe 53 l'appelle le lépreux, celui qui est frappé d'une plaie. Et le texte continue en disant, dans le jardin d'Éden, il y a un palais. Le Messie appelle tous les malades pour prendre leur souffrance sur lui, car il est seul à pouvoir le faire. Au commencement était le Messie. Envoie vers nous le Messie, notre justice, car il n'y a personne pour nous justifier. Notre péché est profond. Il a été brisé pour nos péchés. Il a porté nos iniquités sur ses épaules. Il a accompli le pardon de nos iniquités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le temps est venu. Yinon, le Messie, a été frappé à notre place. Il est notre roi. Il est notre sauveur. Et une seconde fois, il viendra pour nous sauver. Prière juive. C'est pas chrétien, ça. C'est juif. Hein? Et voyez ce que Paul dit quand il parle de ce voile. Ce voile qui est sur les cœurs. C'est très intéressant de voir que Paul emploie le mot voile. Il ne dit pas c'est une chape de plomb. Il ne dit pas c'est un mur en béton armé. Il dit c'est un voile. Un voile, c'est ténu, c'est fragile un voile. Un rien suffit à l'enlever. Et nous voyons que quand viendra le temps, comme dit l'apôtre Paul, il sera facile à Dieu de les greffer sur leur propre olivier, parce que c'est leur olivier, n'est-ce pas? Il nous a dit aussi qu'en attendant le retour du bien-aimé, le Messie sera méprisé. D'ailleurs, si quelqu'un n'est pas d'abord méprisé, considéré comme un objet de scandale, il ne peut pas se prétendre le Messie. Il y a des textes comme ça aussi. Et c'est pourquoi le Messie est aussi appelé dans le psaume 118 la pierre rejetée. Enfin, le Messie doit ressusciter. Le psaume 101 nous dit « Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. » Et selon les sages, il s'agit de la résurrection du serviteur souffrant, c'est-à-dire du Messie. Est-ce que ce sont ces textes-là que Jésus a pris pour expliquer, comme dit l'évangéliste Luc à ses deux disciples qui allaient à Emmaüs, expliquer dans les Écritures tout ce qui le concernait? Nous pouvons pas savoir, mais certainement des textes en tout cas semblables auxquels il a donné des explications semblables. Donc, si vous voulez, voilà comment l'expiation est quelque chose qui est solidement ancré dans l'Écriture, solidement ancré dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et je dirais aussi solidement ancré dans l'interprétation juive traditionnelle des textes de l'Ancienne Alliance. Donc, c'est quelque chose qui est profondément biblique et qui ne peut être nié sans que l'on nie l'Écriture dans son ensemble. Nous allons maintenant étudier un nouveau thème qui découle du premier, un thème très important, celui de la conversion. L'expiation est la part de Dieu dans l'œuvre du salut. La conversion est la part de l'homme. La conversion est la réponse de l'homme à l'œuvre de salut de Dieu par le moyen de l'expiation. Il y aurait une étude fort intéressante à faire, au travers de toute la Bible, prendre les deux thèmes opposés, constamment opposés, la repentance qui s'oppose à l'endurcissement du cœur. Or, la conversion, c'est quelque chose qu'on trouve déjà de mentionné dans l'Ancien Testament. C'est une expression qui en hébreu se dit « tshuva ». Chazara bitshuva, ce qui veut dire revenir et se retourner. La version grecque des Septante traduit toujours cette expression par epistrephein. Ça veut dire exactement la même chose, se retourner. Exemple, Genèse 15, verset 16, Dieu parle à Abraham et dit « Tes descendants seront captifs dans un pays qui ne sera pas le leur pendant 400 ans, et à la quatrième génération, ils reviendront ici. Emyarzeruena. Ça veut dire ils se convertiront ici, on peut traduire de la même manière. N'est-ce pas? À l'inverse, pour qu'il y ait retour du peuple d'Israël dans le pays de la promesse, il faut que le Pharaon ait endurci son cœur. Et il faut que l'iniquité des Cananéens soit arrivée à son comble. Ça veut dire que les Cananéens aient endurci leur cœur. Seulement cet endurcissement du cœur des Cananéens permettra le retour d'Israël, la conversion d'Israël, si vous voulez. Là, on pourrait développer ce thème-là, hein. Relation aussi avec Luc 21. Bon, ça c'est autre chose. La tradition juive aussi a un jour particulièrement terrible dans l'année, c'est le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Or, ce jour de l'expiation est précédé dans la tradition juive par ce qu'on appelle les 10 jours terribles, Yamim Noraim, qui sont des jours de tshuva, des jours de repentance, des jours de conversion. Et c'est pourquoi le Kippour est l'image du jugement dernier. Et l'on prie, vous connaissez cette prière, nous la chantons, « Inscris-nous pour la vie. Inscris nos noms dans le livre de vie. » Ce rituel de Kippour est longuement détaillé dans le livre du Lévitique, chapitre 23, où nous voyons que l'expiation est liée avec l'humiliation. « Vous humilierez vos âmes, dit le Seigneur. » Lévitique 16, autre condition, la confession des péchés. Et l'on confessait ses péchés, ou les péchés d'Israël, sur la tête du bouc expiatoire, lequel, ensuite, nassa et aavon, il emportait le péché, il portait le péché. C'est le même mot que nous retrouvons dans Ésaïe 53. Il a porté nos péchés et il s'est chargé de nos iniquités. C'est un mot, je dirais presque technique, qui est employé pour le bouc expiatoire le jour du Kippour. Deutéronome 30, verset 1. Ve'eshafta et levavecha. Tu convertiras ton cœur. Tu feras revenir ton cœur. Veshafta el Adonai Elohecha. Et tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Puis, quand tu seras exilé aux extrémités de la terre, le Seigneur ton Dieu vetachev Adonai et shvutecha. Le Seigneur mettra fin à ton exil. Littéralement, le Seigneur fera retourner ton retour. Il mettra fin à ton exil. On trouve ça dans le psaume 26. Beshuv Adonai et Shivat Sion. Quand l'Éternel ramena le retour de Sion. Quand il mit fin à l'exil de Sion. Et que se passera-t-il quand le Seigneur mettra fin à tout ton exil? Deutéronome 31. Ve'ata tashuva, ve'asita et kol amizvot. Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu et tu pratiqueras tous ses commandements. Tu mettras en pratique tous ses commandements. Le résultat de cette repentance, c'est que tu mettras en pratique tous les commandements de Dieu. Et le Seigneur lui-même fera cela. Ve'shuva Adonai la sod becha. Le Seigneur viendra faire cela en toi. C'est l'œuvre de Dieu. Alors toi, tashuv el Adonai michol levavcha, tu reviendras au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, ici nous voyons une chose intéressante. C'est que le retour géographique, physique d'Israël est lié avec le retour spirituel. Psaume 51, verset 15. J'annoncerai ton nom parmi mes frères. Et les pécheurs reviendront à toi, se convertiront à toi. Ézéchiel 14, verset 6. Vous vous détournerez de toutes vos idoles. C'est le même mot. 18, verset 7. Vous vous détournerez de toutes vos transgressions. Psaume 19, verset 7. La Torah du Seigneur est parfaite. Elle convertit le cœur. Elle fait revenir le cœur. Ésaïe 6, verset 10. De peur qu'ils ne se repentent et que je ne les guérisse. Ou encore Osée 9, dans l'image de la femme adultère qui revient vers son premier mari, elle dit « Je reviendrai vers mon premier mari. Je me convertirai à mon premier mari, si vous voulez. » Joël 2, verset 10, où il est question du jour du Seigneur, l'occasion de se repentir pour échapper au jugement imminent qui est suivi de l'effusion du Saint-Esprit. Et puis, je cite Ésaïe 53, « Ralinu unasa » Il a porté nos péchés. Jonas 3, verset 8, où il est dit de Ninive, ils reviendront de leur mauvaise voie. Ou le psaume 22, pardon, qui évoque la repentance des nations au temps de la fin par l'intermédiaire du serviteur de l'Éternel. Et enfin, Ésaïe 9, où il est question du rassemblement d'Israël. Or, ce qui est tout à fait intéressant de voir, c'est que c'est exactement ainsi que Jésus a compris sa mission. Jésus était venu pour rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire pour ramener les pécheurs. Il n'était pas envoyé vers les bien portants, mais vers les malades. Ça veut dire qu'il allait vers les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les péagés, ceux qui s'étaient écartés, qui étaient comme la brebis perdue. Et il était le bon berger, il ramenait la brebis perdue pour rassembler en un seul corps tout Israël. Or, cela serait possible par l'effusion du Saint-Esprit qui donnerait au peuple un cœur nouveau, selon l'Ancien Testament. Et dans tout le livre des psaumes, dans tout l'Ancien Testament, surtout dans le livre des psaumes, la repentance est toujours la condition du pardon. La Bible nous dit « Celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtient miséricorde. » Or, la repentance est aussi liée à la réparation. Le livre du Lévitique nous le montre. Il confessera son péché et il fera une restitution. C'est ce qu'a fait Zachée, par exemple, quand il s'est repenti. Et nous voyons à la fin la repentance d'Israël et des nations. Bon, voilà, grosso modo, très rapidement, très schématiquement, exposé, si vous voulez, la doctrine de la repentance ou de la conversion, parce que c'est le même mot, dans l'Ancien Testament. Bon, maintenant, dans le Nouveau Testament, on va s'y arrêter plus longtemps, parce que ça nous intéresse plus, bien sûr. D'abord, nous voyons que la conversion ou la repentance était au centre du ministère de Jean-Baptiste. Le royaume s'est approché. Ça veut dire qu'il a fait une brèche, il a fait irruption parmi les hommes. On peut l'atteindre. Et là, Jean-Baptiste citait Michée 2. Celui qui marche devant eux fera la brèche, puis le roi passera, il entrera. Et ceux qui le voudront marcheront à sa suite. C'est ce que disait Jésus. Depuis le temps de Jean, le royaume des cieux est forcé. Et chacun use de violence pour s'en emparer. La violence dont il faut user pour s'en emparer, c'est justement la repentance. En même temps, le jour du jugement est proche. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, donc il faut se repentir pendant qu'il en est encore temps. Et la vocation de Jean-Baptiste, c'est de ramener les cœurs, les achives et à l'évavot. Nous retrouvons encore le même mot, la chouve. N'est-ce pas? Comme dans l'Ancien Testament, pour Jean-Baptiste, la véritable repentance entraîne la réparation, les fruits dignes de la repentance. Et le baptême qu'il prêchait était le baptême de repentance, par lequel on témoignait publiquement que l'on se repentait de ses péchés. Ce baptême enlevait l'impureté rituelle des Juifs, mais Jean-Baptiste, comme les gens de Qumran, nous l'avons vu, pensait que le péché souille aussi le corps et que le cœur doit être au préalable purifié. Comment le cœur est-il purifié? Il l'est par la repentance, le corps par le baptême. Et ainsi le corps est scellé en vue de la résurrection qui sera contemporaine de la venue du Messie. Car la venue du Messie sera le signal de la résurrection des morts, ce qui a été, puisque Jésus est le premier-né d'entre les morts. Donc, la certitude que nous sommes proches du jour de l'Éternel doit nous entraîner à la repentance. Et le baptême est le sceau de l'Israël messianique, l'Israël qui va recevoir le Messie. S'il n'y a pas de repentance au préalable, le baptême n'est pas valide. Alors, nous retrouvons ici un autre thème qui est très fréquent à Qumran, vous vous en souvenez. Où l'on est le fils du serpent, on est le fils du Messie. D'ailleurs, au point de vue Gematria, les deux mots ont le même nombre. 358 dans les deux cas. Mashiach et Nahash. Ça a la même valeur numérique. Et alors, ou bien on devient fils du Messie par la repentance et par le baptême, ou bien on est les fils du serpent, fils de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir, n'est-ce pas, disait Jean-Baptiste. Et précisément, pour les hommes, il est impossible de faire la différence, car les deux ont le même nombre, 358. Mais le Messie qui va venir, lui, fera le tri. Il a son voile à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et c'est pourquoi ici nous voyons le baptême, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, comme une réalité extrêmement importante. Paul le confirme aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Remarquez bien les trois termes. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés. Donc nous avons ici les trois dimensions de l'œuvre de la repentance. En même temps, le terme « lavé » fait allusion au baptême, manifestement. Autre preuve que nous avons ici une allusion au baptême, la formule trinitaire. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit sont évoqués ici. Par conséquent, le baptême est absolument indissoluble, indissociable de l'œuvre de la repentance, de la conversion, pour qu'il puisse y avoir cette triple action, si j'ose dire, dans les trois dimensions de l'homme, où les trois personnes de la divinité sont à l'œuvre, Père, Fils et Saint-Esprit. Il en résulte à la fois justification, sanctification, et le fait d'être lavé, je ne sais pas ce qu'on peut dire, lavage, c'est un mot un peu trivial, mais ça parle du corps, le corps aussi à avoir dans cette affaire. Le corps aussi est intéressé par le salut, car le corps est promis à la résurrection, et par le baptême. Le corps de l'être qui a été justifié et sanctifié, eh bien, est scellé pour la résurrection. D'où l'image de la mort et de la résurrection. Dans le baptême, je meurs et je ressuscite. Comme Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et Paul nous dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés pour être une même plante avec lui aussi dans sa résurrection. Donc nous voyons que le baptême est directement lié à la résurrection. résurrection du corps. N'est-ce pas ? Et c'est le terme ultime de l'œuvre de la conversion. Toute conversion véritable s'achève par le baptême. Bon, autre point maintenant. Jésus et l'appel à la repentance. Jésus avait le même message que Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et un jour que il avait chassé deux démons, la foule dit, les pharisiens disent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et Jésus répond avec beaucoup de bon sens, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Si Satan se chasse lui-même, il s'autodétruit. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché. Ça veut dire que c'est le signe que Dieu règne sur les puissances de Satan. Il domine sur les suppôts de Satan, les démons. C'est donc que Dieu commence à régner. Et si le royaume de Dieu s'est approché, alors il faut se repentir. D'où malheur à toi, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, car si les miracles avaient été faits au milieu de toi, l'avaient été attirés à Sidon, ça serait repenti, car elles auraient compris. Pourquoi ? Et quelle était la signification des miracles ? Les miracles étaient le signe que le royaume de Dieu s'était approché. Et si le royaume de Dieu s'est approché, il faut répondre par la repentance. N'est-ce pas ? Jésus dit, le Saint-Esprit est sur moi, l'Esprit de Dieu est sur moi, pour annoncer les bonnes nouvelles, pour guérir, etc. Et quand les disciples reviennent d'avoir été guérir les malades avec la puissance de Jésus, et qu'ils disent, les démons même nous sont soumis, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel dans un éclair. Ça veut dire son royaume est ébranlé, il perd son pouvoir. Chaque fois que un malade est guéri par la puissance de Dieu, chaque fois qu'un démon est chassé, chaque fois qu'un cœur se convertit, le royaume de Satan est ébranlé et le royaume de Dieu s'approche un peu plus. Le royaume de Dieu est manifesté. Jésus chasse les démons par le doigt de Dieu. Il délivre tous ceux qui sont sous le pouvoir du diable, manifestant ainsi que le royaume de Dieu s'est approché. Car Jésus n'est autre que le messager de la bonne nouvelle qui est annoncé par Isaïe 52, qu'ils sont beaux les pieds de l'évangéliste de bonne nouvelle qui annonce la paix, qui annonce le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ton Dieu règne, c'est le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus vient avec la puissance de Dieu pour accomplir la prophétie faite à son sujet. Le messager de la bonne nouvelle, l'évangéliste, il dit à Sion, ton Dieu règne. Et il le montre, il le prouve. Il le prouve en guérissant les malades, en faisant des miracles. Donc, c'est le temps des violents. C'est le temps des décisions. C'est le temps du retour. Jésus rassemble les exilés, les exclus d'Israël. Et c'est pourquoi il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. C'est aussi pourquoi les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec ceux de cette génération parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas qui pourtant n'a fait aucun signe. La non-foi, c'est l'endurcissement du cœur. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est la mauvaise foi évidente devant les signes évidents du royaume de Dieu. C'est l'attitude des magiciens de l'Égypte qui essayaient d'imiter les miracles de Moïse mais qui ont été obligés de reconnaître, c'est le doigt de Dieu. Mais ce que les magiciens de l'Égypte ont reconnu finalement, contraints et forcés, vous êtes tellement de mauvaise foi que vous ne voulez pas le reconnaître. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Par contre, la foi, c'est l'attitude de Nicodème qui dit, nous savons que tu viens de Dieu, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus disait ailleurs, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à cause de mes œuvres. Car les œuvres que je fais, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Jean termine son évangile, la première partie, en disant, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Alors Jésus s'enfuit, loin d'eux. Donc ici, nous voyons un autre point très important. C'est que la conversion est non seulement la repentance de ses péchés, mais la foi dans l'œuvre de Jésus. La foi dans le fait qu'en lui, au travers de lui, Dieu règne. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'est approché. Le temps est accompli, dit Jésus, croyez à la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui dit à Sion, ton Dieu règne. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la conversion est désignée sous un autre terme aussi qui est tout à fait intéressant, c'est le terme métanoïa. Ça vient de deux mots, méta, nouveau. Méta, c'est changement. Noïa, c'est ce qui est nouveau, l'esprit nouveau, se faire un esprit nouveau. Comme c'est tout simplement traduction de ce que disait Ézéchiel, faites-vous un esprit nouveau et un cœur nouveau. Un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision des choses. David disait, je citais tout à l'heure le texte, « Je ramènerai les pécheurs à toi, épistréphein. » C'est aussi l'idée de changer d'avis. Jésus disait, « Si vous ne vous repentez pas, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » C'est un changement d'état d'esprit, un changement de cœur. Luc 15 est un chapitre qui est tout entier consacré à trois paraboles sur la joie de Dieu devant la repentance des hommes. La première, c'est la drachme perdue, la deuxième, la brebis perdue, et la troisième, le fils perdu, donc ce qu'on appelle aussi le fils prodigue. La joie de Dieu devant la repentance des hommes, car trois fois, le Seigneur conclut en disant, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu veut que tous les hommes se repentent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et que cette repentance soit accompagnée d'œuvres dignes de la repentance. Paul disait qu'il avait prêché partout où il passait la conversion à Dieu et la repentance avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Acte 17, verset 30, acte 26, verset 20. Donc, la métanoïa, c'est une vision nouvelle. Un esprit nouveau et, comment dirais-je, un raisonnement, une compréhension nouvelle des choses. Maintenant, la conversion, elle est aussi appelée ailleurs la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau ou il faut que vous naissiez d'en haut. Et Jésus dit, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. En effet, l'endurcissement du cœur des païens entraîne le jugement de Dieu. Tandis que, selon Luc 24, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, comme c'est écrit. Et nous voyons que la nouvelle naissance, c'est effectivement le fait de commencer quelque chose de tout à fait nouveau, d'être recréé. Paul disait dans la première aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Or, acte 11, verset 18, nous dit que Dieu a donné aussi la repentance aux païens. Même s'il y a une relation étroite entre la passion et le salut d'Israël. Acte 5, verset 31. 2 Corinthiens 5, verset 5, la nouvelle création, je citais le texte tout à l'heure, qui vient d'Ézéchiel 53, où il est question de choses nouvelles. Le Seigneur fait des choses nouvelles. Ézéchiel 43, verset 18 et 19. Le péché, en effet, c'est une situation. Ce n'est pas un acte d'abord, c'est une situation. Et la nouvelle naissance nous met dans une situation nouvelle, une situation où repentance et foi, les deux réalités conjuguées conduisent à la nouvelle naissance. C'est-à-dire la régénération par le Saint-Esprit, la transformation du cœur par le Saint-Esprit. Il faut ces deux ingrédients, la repentance et la foi. Voyons chacun de ces deux ingrédients l'un après l'autre. La repentance d'abord. La foi ne peut pas exister sans la repentance. Seul celui qui est véritablement repentant éprouve le besoin d'un sauveur. Or, personne ne peut non plus se repentir sans la foi en Dieu, foi dans ses jugements et foi dans ses promesses. La repentance est préparée par l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus disait, le Saint-Esprit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est Dieu qui donne la repentance. Dieu donne la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie, dit Pierre, après son expérience avec Corneille. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'homme n'ait rien à faire dans ce problème. Là, nous retrouvons la vieille querelle des réformateurs, n'est-ce pas ? Si le salut est tout entier de Dieu, l'homme ne peut rien faire, il est entièrement prédestiné. Non. La repentance est un don de Dieu. Mais l'homme peut accepter ou refuser ce don. La repentance, c'est la conviction de péché d'abord, où soudain, celui qui est touché par la conviction de péché comprend ce qu'est le péché. Il voit le péché comme Dieu le voit. Il se prend dégoût, il se prend en horreur, il prend dégoût son péché. Et il faut relire les discours de Finet sur les réveils pour voir ce qu'est la véritable conviction de péché. Les hommes, les pécheurs qui tremblent, qui pleurent, qui sont dans le désespoir, qui voient l'enfer ouvert devant eux, qui réalisent qu'ils ont besoin d'un sauveur, et qui alors à ce moment-là seraient prêts à faire n'importe quoi, sont prêts à mettre leur vie en ordre, sont prêts à réparer ce qui a besoin de l'aide, sont prêts à accepter ce qu'ils n'auraient jamais accepté auparavant. Mais la Bible dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme ». Si on éteint l'esprit de conviction de péché, le pécheur lui-même peut le faire. Finet montre aussi que d'autres peuvent le faire, dans l'entourage du pécheur, des personnes soi-disant bien intentionnées, qui lui donnent de fausses consolations et qui l'amènent à éteindre l'esprit qui est en lui. Finet appelle ça les pécheurs éveillés. Il fait trois différences. Le pécheur inconscient, qui est pécheur, il le sait ou il ne le sait pas, il s'en fiche. Le pécheur éveillé, celui qui est convaincu de péché, mais qui n'est pas converti. Car on peut résister très longtemps à la conviction de péché. Ce n'est pas parce qu'on éprouve la conviction de péché qu'on est sauvé, dit Finet, il a raison. Et puis le pécheur véritablement repentant. Celui qui dit, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé ? Et qui est prêt à faire alors tout ce qui lui sera montré dans la parole de Dieu pour mettre sa vie en ordre, et qui connaît alors à ce moment-là la joie du salut, la joie de voir ses péchés être véritablement pardonnés. Voilà, si vous voulez, ce qu'est la repentance. À la repentance s'ajoute cette autre dimension qu'est la foi. Ça, si vous voulez, on verra la prochaine fois.